Bonjour à tous, je vous dis du centre de Mito Staniloae. Nous voici de nouveau pour une séance de notre cours théologie orthodoxe et sciences, le niveau de licence 3. Aujourd'hui, nous allons toucher à un sujet qui me paraît extrêmement intéressant, théologie versus astrophysique face au questionnement du sens. Je vous rappelle que le support de cours qu'on utilise pour nos cours est celui-ci que vous pourriez facilement vous procurer, soit à la procure à Paris, soit sur Amazon.fr, soit sur l'international, sur n'importe quel Amazon qui se trouve dans le monde. Il suffit de taper théologie orthodoxe et sciences et de trouver les trois supports de cours correspondant aux trois années de licence 1, 2 ou 3 au centre de Mito Staniloae de Paris. Thierry Magnan, qui est un physicien français et un prêtre catholique, écrit un ouvrage qui s'appelle « Quel Dieu pour un monde scientifique ?» Il est quelque part ici, on peut le trouver si on le cherche. Voilà, celui-ci, « Quel Dieu pour un monde scientifique ?» Je vous montre le volume, celui-ci. Et donc, il constate deux attitudes extrêmes de la part des scientifiques face au problème du sens. D'un côté, par crainte d'introduire la notion de finalité sur le terrain scientifique, certains n'osent pas, de façon habituelle, aborder le lien entre science et sens. Nous observons pourtant aujourd'hui les signes d'un dépassement de cette méfiance propre au scientisme, qui est une idéologie, et bien présente dans la modernité, dans la nouvelle façon de concevoir l'investigation scientifique suite à l'émergence de la nouvelle physique. Ainsi, passer de l'étude de l'univers à la question de l'existence humaine et vice-versa est devenu possible pour certains scientifiques. Par exemple, le prix Nobel Erwin Schrödinger. Il considère que la connaissance isolée d'un groupe de spécialistes n'a de valeur que dans la synthèse qui la réunit à tout le reste de la connaissance et qui plus est seulement dans la mesure où elle contribue réellement dans cette synthèse, à répondre à la question « qui sommes-nous ?» C'est-à-dire relie la question du sens de l'être humain à la question plus générale de la science. Dès que la science s'intéresse à la condition de l'être humain dans l'univers, la question du sens s'ouvre implicitement. Sous la forme d'une interrogation rhétorique, une réouverture des chemins de sens, le physicien Bernard d'Espagna, toujours un physicien français, il est décédé l'année passée, constate la différence entre comprendre un théorème qui relève de l'exercice intellectuel et comprendre son prochain qui relève d'une communion affective. Et je le cite maintenant, lorsqu'on évoque en termes généraux la question du sens, le sens dont il s'agit paraît à première vue n'avoir guère de rapport avec la compréhension d'un théorème. Autrement dit, il semble assez clair que quand on cherche le sens de l'existence, c'est plutôt du côté de la seconde acceptation qu'il faut se tourner. Et effectivement, si l'on regarde de ce côté, on constate vite qu'une sorte de force instinctive a toujours poussé les hommes à extrapoler la compréhension de notre prochain à la totalité de l'existant. D'Epargna, dans ce contexte, fait référence au sentiment inné du sens qui se dégage de la vie courante, illustré par exemple par le souci des parents pour leurs enfants, et souligne qu'on peut procéder à une sorte d'extrapolation du prochain, c'est-à-dire du relatif, du biologique, à l'absolu, et que la trame de cette intuition se retrouve, dit-il, dans l'immense résonance philosophique du mot biblique « je suis ». Celui qui suit. Voilà une référence biblique chez un grand physicien que j'ai rencontré il y a quelques années lors d'une de ses conférences à Paris, peut-être parmi les dernières conférences. Je l'ai croisé, on a échangé un petit mot. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait, disons, un témoignage d'ordre religieux. Mais son ouverture d'esprit nous donne beaucoup de choses à penser, à réfléchir par rapport au contact, à la relation entre le monde des sciences ou de la philosophie des sciences et le monde théologique. De l'autre côté, certains scientifiques sont menacés par le danger de vouloir rechercher un lien direct entre la science et le sens dans une attitude de type gnostique, constate Thierry Magnan. Cette attitude peut être vue comme le reflet d'une quête de connaissances profondes, voire initiatiques. Mais au lieu de faire appel à la théologie, tout simplement parce que le Dieu des chrétiens demeure inconnu à beaucoup d'entre eux, elle constitue plutôt une démarche de prolongation de la réflexion scientifique par une réflexion d'ordre métaphysique et philosophique qui prend l'allure de démarches religieuses. Il n'est donc pas surprenant de voir des scientifiques ayant leur religion à eux, résultat des intuitions et des réflexions personnelles assemblées dans un système avec une certaine cohérence intellectuelle, mais qui dépasse en réalité le cadre strictement intellectuel pour entrer sur le territoire de la foi. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Tout simplement qu'il y a des scientifiques qui fabriquent une religion à eux, donc leur démarche, disons, d'interprétation d'ordre métaphysique, philosophique ou autre, de résultats scientifiques ou de leurs intuitions personnelles, font un système qui les mène parfois à imaginer en quelque sorte un Dieu à eux qui n'est pas du tout en fait le Dieu de notre révélation chrétienne. Et donc eux, ils choisissent de parler parfois dans leur quête spirituelle, parce que c'est une quête spirituelle finalement, de la religion. Ils parlent même de science et religion, mais religion pour eux ne veut pas nécessairement dire la religion, une religion, disons, connue, assumée par un grand nombre de personnes, mais plutôt une sorte de pensée personnelle, philosophique, métaphysique, avec une tendance, j'ose dire même peut-être initiatique, mystique, mais qui reste la production de leur intelligence. Donc, par rapport à ce genre de religion, le christianisme affirme justement la révélation, c'est-à-dire la révélation est au-delà des postulats humains, c'est une découverte que Dieu fait à l'homme. Bien sûr que l'homme, on constate cela, il a la tendance, par exemple le scientifique, il projette toujours son intelligence pour pouvoir offrir des modèles par rapport à ce qu'il voit autour de lui au niveau phénoménologique. Donc s'il prolonge cet exercice par rapport à la disons une divinité ou les divinités, si voilà, il ne s'est pas rendu compte qu'on parle d'un Dieu unique, ou l'absence de divinité, si on parle par exemple de la thaophysique de Fridtjof Capra, Tao est plutôt un système, n'est pas une religion qui a une divinité au centre. Donc tout cela est très différent et fait appel, si vous voulez, à un Dieu fait ou proposé à l'image de l'homme, parce que c'est une projection humaine pour fabriquer Dieu. Donc finalement, c'est un idole même un peu construit à la scientifique, si on peut dire, mais quand même un idole, c'est-à-dire une production humaine. Donc il faut bien comprendre que les chrétiens ne sont pas idolâtres, c'est-à-dire le christianisme n'est pas pour nous le résultat des postulats humains, des intuitions qui fabriquent selon notre image Dieu. Mais au contraire, dans la Genèse, on constate bien que Dieu fait l'homme à son image et sa ressemblance. Donc l'homme est à l'image de Dieu, l'homme copie Dieu, l'homme est l'icône de Dieu, donc la découverte de Dieu véritable, voir Dieu tel qu'il est, comme dit la Chimandri Sofronie Sakharov, est une exigence pour pouvoir avoir le vécu religieux. Une exigence qui finit avec l'imagination, qu'elle soit religieuse ou autre, pour pouvoir rencontrer véritablement celui qui est au-delà de nous et qui a une existence objective qui n'est pas construite par la projection humaine, intellectuelle. Par rapport à ces deux attitudes extrêmes, nous nous proposons, ce qui suit, de traiter de la question du sens sur le terrain de la philosophie, de la science et de la théologie. Nous allons montrer qu'une réflexion correcte, c'est-à-dire profitable intellectuellement ou spirituellement, nous est désormais possible une fois bien située dans le respect des exigences propres à chacune des voies de connaissance. En premier sous-chapitre, rationalité et intelligibilité dans l'univers. Il faut que je vous montre deux ouvrages qui sont extrêmement intéressants. Je fais toujours appel à Jean Stone, qui vit ici en France. Notre existence a-t-elle un sens? Une enquête scientifique et philosophique. Jean Stone est l'auteur qui regroupe ce genre d'ouvrages. Il m'a confié aussi... un petit autographe de sa part, je me sens reconnaissant par rapport à sa démarche, à sa façon de m'encourager dans les questions de science et religion. Et dans cet ouvrage, lui, il accueille beaucoup de personnes qui parlent et donc il synthétise beaucoup de propos pour donner un ouvrage qui me semble être un ouvrage de référence pour l'ouverture à ce domaine fascinant de la relation entre la science et la religion. Peut-être l'ouvrage le plus important qui se trouve ici en France. Un autre ouvrage, toujours fait par Jean Stone, cette fois-ci un recueil de propos des grands scientifiques, donc il n'y a pas de synthèse ici, c'est tout simplement chacun vit avec son article. Et donc, on trouve par exemple Bernard d'Espagna, une réouverture des chemins de sens. Le premier article, voilà, Jean Stone, science et quête de sens. Pour vous dire un tout petit peu où on est à l'heure actuelle. Donc, le sous-chapitre rationalité et intelligibilité dans l'univers. La confiance dans le fait que le monde est rationnel constitue un des fondements de la démarche scientifique. La possibilité d'étudier la réalité phénoménale et plus encore, le fait que cette rationalité se révèle accessible à l'homme et donc compatible avec la structure de notre pensée, nous permet de parler du monde non pas uniquement en termes de rationalité, mais aussi d'intelligibilité. La chose la plus incompréhensible du monde, disait Einstein, c'est que le monde soit compréhensible. C'est une affirmation issue de la recherche scientifique. Pour nous, en tant que chrétiens, peut-être la chose la plus compréhensible du monde, c'est que le monde soit compréhensible. Pourquoi? Parce que si nous avons affaire avec un Dieu qui se découvre à l'être humain, il se découvre aussi à travers l'œuvre qui nous a mis autour de nous, qui est sa création. Donc, il nous parle par sa création. Donc, sa création est un langage et en même temps un discours envers nous. Un discours à travers les raisons qui le structurent profondément et à travers tout le mouvement autour de nous qui nous dévoile la pensée de Dieu, l'intention, la bonne intention de Dieu pour que tout soit accompli en lui. Paul Davis, physicien, caractérise la situation de la manière suivante. Je le cite, Paul Davis, God and the New Physics, édition Don, Londres, 1983. Le succès de la méthode scientifique qui conduit à la découverte des secrets de la nature est tellement surprenant qu'il peut nous empêcher de nous rendre compte de plus grands des miracles. Le fonctionnement de la science. Tous les hommes, y compris les scientifiques, trouvent naturel que nous vivions dans un univers rationnel et ordonné, soumis à des lois précises que la raison humaine doit découvrir. En même temps, le motif de cet état des faits reste un mystère qui nous étonne. Le fait que la science fonctionne et qu'elle fonctionne si bien en dit quelque chose d'extrêmement significatif dans l'organisation du cosmos. C'est très beau. Quand on voit un scientifique s'étonnant devant le mystère du monde, c'est vraiment très beau. L'esprit humain montre une adéquation structurelle pour une compréhension rationnelle du monde. Le monde est structuré rationnellement et en même temps la conscience est apte à pénétrer cette rationalité. L'exercice intellectuel de la science consiste à demander à la nature de répondre, j'utilise les guillemets, mais c'est comme ça, on pose des questions à la nature, avec précision au pourquoi humain. À l'évolution, dans la façon de poser la question, correspond un progrès qualitatif continu de la teneur des réponses. Ainsi, la science ne se montre que comme un long processus d'apprentissage sur la façon d'interroger la nature et la raison, y joue un rôle fondamental. On vit ça en Occident. Voilà, on se rend compte que l'organe fondamental pour comprendre, c'est l'exercice de l'intellect humain. On se demande d'ailleurs quel sens aurait l'existence de la rationalité du monde sans l'existence d'un être rationnel capable de la découvrir, c'est-à-dire l'existence de l'observateur, de la conscience humaine dans l'univers. Observateur humain dans l'univers. Une réponse est donnée par l'existence d'une problématisation téléologique, le mot téléologique est important, à l'intérieur de la théologie, à travers une cosmologie, une anthropologie fondée bibliquement. Ainsi, nous concevons l'intelligibilité du monde comme étant liée à l'empreinte spirituelle du Créateur, et par conséquent ouverte à la lecture de l'être humain créé à l'image, à la ressemblance de celui-ci. Mais nous devons signaler également une tendance actuelle que nous trouvons révolutionnaire par rapport au désenchantement du monde. C'est un syntagme que Johnston utilise, professé par la modernité. Elle consiste à mener une réflexion philosophique autour des résultats issus des sciences, notamment de la physique quantique et de l'astrophysique, prenant très au sérieux scientifiquement l'existence de la conscience humaine dans l'univers. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est à l'intérieur même de la science qu'on se rend compte que la conscience humaine joue un rôle très important dans l'univers. Vous vous souvenez peut-être de la neutralité plutôt installée dans le processus d'observation de la nature, dans la physique moderne, quand on était dans une position d'extériorité, on peut dire, par rapport à l'objet observé, objet de connaissance observé. Donc entre l'observateur et l'objet, il y avait une sorte de neutralité qui assurait d'ailleurs le sérieux, on peut dire, de cette affaire, la rigueur de ces observations. Sauf que dans la physique quantique, par exemple, l'observateur interagit avec l'objet observé. Et donc, on doit se rendre compte que la conscience joue un rôle, un autre rôle, dans l'observation. Ainsi, et c'est presque une exigence aujourd'hui pour elle, la physique doit devenir consciente de l'appartenance de l'observateur humain à l'univers qu'elle décrit, s'il veut marcher sur la voie de la complétude tant désirée. Vous connaissez très bien qu'on cherche toujours une théorie du tout, voilà, pour unifier les théories différentes au niveau différent de l'observation. Il est évident que l'intelligibilité du monde se dévoile selon la grille de lecture qu'on lui propose. D'une part, la lecture scientifique la démontre surtout au niveau phénoménologique. L'intelligible, ainsi découvert, qui a adopté les mathématiques comme principal support logique pour le développement de son savoir, montrent aujourd'hui le dépassement de leur orientation formaliste. Les mathématiques semblent pouvoir constituer véritablement un langage à travers lequel la nature se dévoile à la lecture humaine. La nature permet à l'homme ce genre d'opérations mathématiques qu'on appelle calculables. Elles ne sont pas donc si abstraites qu'elle pourrait paraître dans le sens d'une indépendance absolue par rapport au monde. La nouvelle physique profondément mathématisée révèle désormais une structure complexe de la nature, que l'on peut configurer sur plusieurs niveaux, dont la compréhension présuppose des sauts aussi bien au niveau de la logique que des lois, chaque niveau adressant à l'homme son intelligibilité. Mais oui. C'est tout simplement, si on regarde au niveau de l'infiniment grand, il y a des lois bien spécifiques, mais les lois montrent l'intelligibilité. Si on regarde à l'échelle de l'homme, Il y a par exemple la physique de Newton qui fonctionne très bien, mais il y a une sorte d'intelligibilité, voilà, une intelligibilité bien concrète qui se dévoile. Si on plonge dans l'intimité de la matière, il y a d'autres lois qui décrivent ce niveau par rapport aux lois du cosmos qu'on a développé justement pour décrire au niveau de l'échelle cosmique. Et de nouveau, ces lois montrent l'intelligibilité du microcosmos, une intelligibilité qui nous parle à nous, les êtres humains. Donc c'est très intéressant. N'importe où on jette les yeux, le monde se montre comme étant un monde intelligible. D'autre part, l'intelligibilité de la nature est à découvrir théologiquement. Ceci implique une grille de lecture autre que celle de la science, une lecture inspirée par la réalité liturgique, qui est une réalité pneumatique, spiritualisée, aidée par la grâce divine. L'ascète chrétien s'ouvre à ce que Dieu lui découvre, au-delà de la capacité naturelle de son intelligence. L'intelligibilité du monde découverte ainsi n'est que le reflet d'une compréhension intelligible confiée par Dieu lui-même à l'homme comme une grâce, comme une révélation. Deuxième sous-chapitre. La question du sens entre le principe anthropique et la téléologie théologique. L'homme s'est adapté au monde. Après tant de siècles de développement des sciences de la nature, cette proposition relève plutôt de la banalité. Par contre, sa réciproque, elle n'est pas banale. Car si nous arrivons à nous rendre compte que l'univers s'est adapté à son tour à l'homme, bien avant même l'apparition de ce dernier, autrement dit, qu'il a fait preuve au cours du temps d'une véritable complicité qui a conduit à l'émergence de la vie et encore plus de la vie humaine, nous voici devant une affirmation redoutable. Portant le nom de principe anthropique, cette affirmation traduit aujourd'hui le constat d'une étonnante calibration des constantes universelles, d'une longue chaîne de coïncidences aboutissant à ce que l'univers d'aujourd'hui soit précisément celui qui offre les conditions physico-chimiques parfaites pour l'apparition et le développement de la vie. Le prix Nobel en physique William D. Phillips exprime ce constat de la façon suivante. Je le cite. Ça vient du volume Science et quête de sens, justement, que je vous ai montré tout à l'heure, édité en 2005. La structure de l'univers semble être mystérieusement adaptée au développement de la vie. Le moindre petit changement de l'une des constantes fondamentales de la nature ou des conditions initiales de l'univers aurait été un obstacle au développement de la vie telle que nous la connaissons. Pourquoi l'univers est-il si incroyablement adapté à l'émergence de la vie? Et plus encore, pourquoi l'univers est-il si scrupuleusement adapté à notre existence, à nous? Si on évoque le potentiel de réalisation de l'univers dans une infinité de possibilités, et le fait que la moindre dérogation au niveau des valeurs courantes des constantes universelles donnerait une autre version d'univers que l'actuel, beaucoup moins accueillante ou tout simplement hostile à l'arrivée de la vie, cela nous donne à penser que la forme actuelle de l'univers ne peut pas être le fruit d'un hasard aveugle, ce qui veulent nous convaincre certains scientifiques ou philosophes des sciences. Il nous faut donc rouvrir la question du sens oubliée depuis la modernité. Pour s'exprimer en termes de probabilité mathématique, le fait que l'énorme chaîne des bonnes coïncidences, qui nous paraît plutôt une sorte de fine-tuning, une calibration, on peut dire, de toutes les valeurs favorisant la réalisation actuelle de l'univers, soit une seule possibilité parmi quasiment une infinité d'autres, a pour conséquence la probabilité quasi nulle de l'existence de cet univers. Et pourtant, c'est cette version de l'univers qui est apparue et non pas d'autres. Je pense qu'il faut qu'on remarque que le principe anthropique n'évoque pas uniquement l'apparition de la vie ou même de la vie intelligente, mais surtout celle d'une conscience, d'un observateur, une conscience devant laquelle l'univers se laisse découvrir comme étant rationnel. Donc le principe anthropique nous parle de l'intelligibilité de l'univers, devant des êtres capables à saisir cette intelligibilité, c'est-à-dire de reconnaître la rationalité et de la découvrir, d'entrer dans une relation intelligente avec l'univers. Encore plus, cette intelligibilité se révèle sur n'importe quelle échelle de magnitude, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a plusieurs versions du principe anthropique. Anthropique vient d'anthropos, homme, ce qui signifie que l'univers mène vers l'homme. À l'homme. Les versions faibles, weak anthropic principle, et fortes, strong anthropic principle, du principe anthropique, qui sont historiquement les premières formulations de principe, nous le devons à Brandon Carter. Il les a énoncées en 1974, par exemple. Ce que nous pouvons nous attendre à observer doit être compatible avec les conditions nécessaires à notre présence en tant qu'observateur. Position plus finaliste encore, le principe fort de Brandon Carter. Notre position dans l'univers est nécessairement privilégiée dans le sens où elle doit être compatible avec notre existence en qualité d'observateur. Le principe anthropique connaît beaucoup d'énoncés différents aujourd'hui. Je vous donne encore d'autres. L'univers, et donc les paramètres fondamentaux dont celui-ci dépend, doit être tel qu'il permette la naissance d'observateurs en son sein, à un certain stade de son développement, où les éléments de l'univers constituent une totalité cohérente, toutes sont interdépendantes, dont le fondement peut être trouvé dans l'élément humain. Encore, il y a une description unifiée et cohérente de l'univers entier qui se base sur l'existence de l'observateur humain. De toute façon, tous ces énoncés soulignent en commun l'existence du facteur humain en tant qu'observateur de l'univers et le fait que l'univers ait dû produire, à un certain stade de son évolution, cet observateur. Il y en a d'autres, comme celui de Barrow, qui affirme simplement que l'univers doit contenir la vie, ou de Barrow et Tipler, qui fait l'observation que l'univers doit posséder des propriétés particulières qui permettent que la vie se développe à un certain stade de l'évolution de l'univers. Bon, n'entrez pas dans des détails. Jacques Demarais et Dominique Lambert expliquent les réticences de certains scientifiques par le refus de l'idée de finalité. C'est-à-dire, on refuse le principe anthropique parce que ça mène vers une perspective où Dieu entre de nouveau dans les hypothèses de travail, j'ose dire scientifique, au moins philosophique, de la philosophie de la science. Ce qui fait peur à certains scientifiques, ou pas peur peut-être, mais qui, voilà, qui dérange certains scientifiques. Il y a des rejets. Donc, contrairement au principe de la physique conventionnelle, le principe anthropique ne constitue le sujet d'aucune réfutation expérimentale. Et c'est le signe sûr qu'il ne s'agit pas d'un principe scientifique. Un autre qui dit offrir une satisfaction de type bouche-trou à notre curiosité devant des phénomènes pour lesquels nous n'avons pas encore obtenu d'explications scientifiques authentiques. Mais il y en a d'autres qui sont pour le principe anthropique. Par exemple, l'observateur du Vatican, la personne de J.V. Coyne, pense qu'il est non seulement stimulant pour la recherche cosmologique, mais aussi un point de rencontre passionnant entre la théologie et la science, car le principe contribue à ce qu'il appelle la réintégration du facteur humain dans le champ de la physique. Je mentionne que le principe anthropique est autre chose que l'intelligent design. Je n'entre pas dans des détails. Nos étudiants peuvent lire un tout petit peu la littérature à propos de l'intelligent design pour se rendre compte eux-mêmes que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est que la modernité, de toute façon, a éliminé l'hypothèse Dieu. Déjà, le mot hypothèse, hypothèse, ça vient du champ scientifique. Donc, la théologie ne fait pas d'hypothèse. Pour certains, il s'agit d'un retour inconcevable en arrière, une fois qu'on pose la question de sens, et que ça peut mener, dans la réflexion de certains, à reconsidérer la position d'un créateur, de l'existence d'un créateur. Quand les scientifiques d'aujourd'hui s'émerveillent devant la beauté et la complexité de l'univers, y compris l'incroyable calibration à l'échelle cosmique de ses paramètres fondamentaux, il rejoint dans son registre de compétences doublé nécessairement d'une ouverture de son âme aux dons propres aux poètes, aux artistes. Ce que le psalmiste d'autrefois exprimait quand il s'exclamait « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. » C'est le psaume 18.1. La vraie téléologie théologique est donc loin d'une importation des questions de finalité dans la réflexion théologique. Elle est fondamentalement le cri doxologique provoqué par l'émerveillement issu de la grâce divine qui fait découvrir à l'homme l'artiste dans son œuvre, autrement dit le créateur dans sa création. Nous pensons donc que la réflexion téléologique d'ordre scientifique ne peut que stimuler la démarche téléologique d'ordre théologique, sans pourtant nous permettre de confondre les deux démarches entre lesquelles il y aura toujours une distinction structurelle. Aucune importation des arguments physiques en théologie ne pourra rendre ces dernières plus crédibles aux yeux de non-croyants et fabriquer en cela une sorte de téléologie théologique employée comme apologétique. L'intelligence spirituelle seule est capable de nous dévoiler les raisons spirituelles qui structurent le monde et qui montrent ainsi sa transparence envers son créateur. Donc, il nous faut une intelligence spirituelle justement pour sentir la création comme témoin d'une rationalité en chiffré. Donc, pour finir, en fait, il y a deux manières, deux façons de s'approcher de l'univers. Côté intelligibilité, il y a une façon scientifique, c'est-à-dire la science met en rapport de collaboration les compétences humaines justement pour découvrir la trace de la rationalité exprimée dans l'univers à travers des lois. On donne une image cohérente et intellectuelle des phénomènes dans l'univers. Mais surtout, on saisit le répétable, voilà, et tout ce qui peut être vérifié à travers des expérimentations. Ça, c'est d'un côté. Donc, le rationnel scientifique n'est qu'une projection humaine intellectuelle sur l'univers qui se dévoile et qui donne la possibilité à l'être humain de le décrire à travers des images intellectuelles, des théories, des modèles, voilà et tout ça. De l'autre côté, la grâce divine agissant dans l'être humain lui donne la découverte du sens des choses qui se trouvent autour de lui, le mène, on peut dire, vers une lecture de cette réalité qui devient un peu une sorte d'échelle à travers laquelle l'homme monte dans la connaissance de Dieu. C'est comme vous avez un créateur, un artiste qui se dévoile petit à petit à travers son œuvre. Donc à partir de la lecture de son œuvre, on découvre petit à petit les traces de caractère, on peut dire, de son créateur. Donc la création et l'empreinte visible et qui nous parle du créateur qui se trouve derrière. Donc c'est pour cela que dans la théologie, on emploie le mot transparence de la création. Transparence, ça veut dire qu'on peut entrevoir la présence du créateur à travers ce qu'on découvre dans sa création. Donc on se rend bien compte que les deux façons de voir les choses sont distinctes en tant que compétences. Donc cette téléologie théologique, je disais tout à l'heure, est d'ordre doxologique, c'est-à-dire on s'étonne devant la beauté, on s'étonne à travers nos prières, à travers notre inspiration, à travers la poésie qu'on découvre, mais à travers aussi la rationalité qui se dévoile. Et donc, quel est le rapport entre ces découvertes intelligibles scientifiques et ces découvertes intelligibles théologiques? Mais le simple fait que les deux peuvent vivre, coexister chez la même personne humaine, c'est-à-dire l'homme a la capacité de porter les deux en même temps. Et l'inspiration divine peut se servir des éléments de connaissance strictement humaine, scientifique, des images de réalité que la science fournit, justement pour saisir davantage cette présence de Dieu. Et donc, on appelle ça une synergie entre la démarche scientifique et la démarche théologique. Cette synergie est vécue comme une grâce, dans la mesure où on se sent inspiré d'utiliser des éléments de la science, de la philosophie, pour pouvoir découvrir davantage Dieu. Ce n'est pas obligatoire que tous les scientifiques sentent celui-ci, mais il y a un tel chemin à découvrir pour, par exemple, le scientifique croyant. Notre cours d'aujourd'hui est un peu plus court que des autres, donc on va s'arrêter ici. Donc n'hésitez pas à compléter avec vos lectures ce qu'on vient d'évoquer. Vous trouvez facilement sur Internet tout ce qui concerne le principe anthropique et dans vos lectures théologiques, essayez de découvrir des auteurs qui mènent un rapport ensemble, on peut dire, des éléments issus de la philosophie des sciences avec le questionnement du sens pris dans cette vision d'ordre théologique et biblique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance de notre cours Théologie orthodoxe et sciences au sein du Centre de Mitre Staniloae à Paris. Au revoir à tous.